Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monnaie Libre aujourd'hui. Je suis avec Gérard Fouché. Salut Gérard.
Bonjour
Stéphane. Et à l'occasion de la sortie de ton nouveau livre, Les secrets de la monnaie. Alors c'est sous-titré Changer la monnaie pour changer le monde.
Mais oui.
Joli titre, hein. Alors, on voit en couverture, c'est une pièce, apparemment c'est un dollar américain, il y a un aigle dessus et ça brûle. Hein.
Oui, c'est un dollar américain qui brûle et qui fait brûler la terre. Alors on ne sait pas très bien, c'est un ami à moi qui a fait ce dessin-là, qui est très très beau, et donc on ne sait pas très bien si c'est le dollar qui brûle la terre et qui finit de la consommer, ou si c'est le dollar qui arrête un petit peu de brûler et la terre commence à revivre.
Il y a donc, une indécision.
C'est pas dans quel sens le combat évolue. Et c'est pour ça que j'écris ce livre, pour que le combat évolue dans un sens qui libère la terre.
Vaste programme. Ouais. Alors c'est un livre qui est très très bien fourni. Hein. Il fait 300 pages. Mmh. Alors on peut dire que ce livre est accessible au plus grand nombre, je dirais, puisque tu reprends vraiment les bases de la monnaie et du problème monétaire. On peut dire que tu refais dans ce livre un peu ce qui a pu déjà traverser Internet avec les films comme L'Argent Dette de Paul Grignon ou ce genre de film qui a expliqué un peu les problèmes de la monnaie. Mmh. Et là, tu reprends tout à la base pour réexpliquer à celui qui voudrait vraiment comprendre à partir de rien quasiment. Hein.
Mmh. Bah, apparemment, c'est ça la principale qualité du livre. C'est ça qui se dégage en tout cas des premières critiques, des premiers commentaires qu'on a. Le livre est sorti depuis quelques jours, quelques semaines à peine. Et donc on a déjà un certain nombre de commentaires, de critiques, d'articles de blog. Et donc apparemment il y a un fort consensus, enfin les gens ont l'air d'accord pour dire que c'est une très bonne vulgarisation. C'est-à-dire que ce sont des concepts a priori qu'on croit compliqués. La monnaie, l'économie, on a l'impression que les économistes sont un peu perdus avec toutes ces notions-là, que les politiciens nagent complètement et s'en sortent pas. Et donc moi, j'ai pris une approche complètement citoyenne. Je suis vraiment un citoyen comme les autres, sauf que j'ai pu passer beaucoup de temps à me renseigner, à regarder des vidéos, à lire des tas de livres en français et en anglais, à interviewer des économistes, des gens de tous les bords. Et donc si j'ai réussi à exprimer un certain petit talent dans ce livre, je dirais tout simplement que c'est un talent de traducteur, parce que ce sont des données effectivement qui sont complexes, mais qu'on peut traduire en langage de tous les jours, de manière à ce que tout le monde puisse comprendre. Et c'était vraiment mon but en écrivant ce livre, c'est que ces données-là qui sont fondamentales pour l'économie, pour notre bonheur, pour notre vie, pour la prospérité de nos entreprises et de nos pays, sont des données fondamentales et importantes qu'on devrait tous comprendre et connaître, qu'on ne peut pas comprendre parce que le langage est compliqué. Donc voilà, j'en ai fait la traduction de manière à ce que chacun puisse s'en saisir et l'utiliser comme il le semble.
Alors tu as mis en ouverture de ton livre deux citations qu'il nous faut donner parce qu'elles sont vraiment parlantes, je pense. D'abord Henry Ford qui aurait dit donc « Si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. » Et la jeunesse qui pourra résoudre la question monétaire fera plus pour le monde que toutes les armées de l'histoire. Ça veut dire beaucoup. Mmh. Et alors une deuxième citation qui est pas mal, qui est vraiment dans l'idée du livre, hein, Les secrets de la monnaie. C'est de Marshall McLuhan qui nous dit « Seuls les petits secrets doivent être protégés. Les grands sont gardés secrets par l'incrédulité du public. » C'est-à-dire que finalement, quand on découvre les secrets de la monnaie grâce à ton livre, on sort de l'incrédulité, c'est-à-dire que ça paraît tellement énorme, finalement, cette simplicité à laquelle nous sommes un peu assujettis sans le savoir, c'est tellement incroyable qu'on a finalement du mal à l'admettre, en fait. C'est un peu ça l'idée.
Oui.
Comme peut-être on a eu du mal à admettre dans le passé, ou que les hommes ont eu du mal à admettre à passer, qu'une chose simple comme la Terre était ronde, ils ont eu du mal à l'admettre.
Exactement. Oui, j'y pensais, oui. Il y a une autre citation d'un très grand économiste qui s'appelle John Kenneth Galbraith, qui dit « Le processus par lequel les banques créent la monnaie est tellement simple que l'esprit en est repoussé ». Et donc, il faut aussi reconnaître que Il y a aussi un très bon moyen de garder un secret, c'est de ne jamais en parler et de ne jamais l'enseigner à qui que ce soit. Bon, c'est vrai que dans l'enseignement primaire, secondaire et universitaire, on apprend des tas de choses qui sont relativement utiles pour la plupart dans nos vies quotidiennes, mais si on cherche bien, si on demande à une centaine de personnes, est-ce que vous avez des souvenirs qu'un jour on vous ait appris d'où venait la monnaie, qu'est-ce que c'était que le crédit, à quoi sert l'argent, d'où vient-il? Je pense que très peu de gens, à part les étudiants en économie, dont le cursus est très précis et développé d'une certaine façon bien intentionnée.
Il n'y a pas de place à la critique de la façon dont c'est fait.
Exactement.
Parce que c'est Étienne Chouard qui en parlait, prof d'économie. Voilà, il disait que lui-même ancien économie, qu'il n'a jamais prêté attention aux mécanismes de création monétaire. Il s'était jamais posé la question avant récemment de est-ce que c'était légitime qu'il soit créé de cette façon.
Tout à fait. Il y a l'enseignement de l'économie, même pour les économistes ou les futurs économistes ou les étudiants économistes. L'enseignement est un, comme la plupart des enseignements, une transmission d'un certain nombre de dogmes établis qui ne sont pas supposés susciter la moindre critique. Donc voilà. Bon, mais en dehors de ce milieu-là, qui est quand même très restreint et très particulier, l'enseignement, dans sa globalité, n'enseigne pas la nature de la monnaie, la création monétaire, ce sont des choses vraiment, le système bancaire, ce sont des choses dont on ne parle absolument pas. Donc d'ici à dire que ce sont des choses trop compliquées pour qu'elles soient enseignées, bon, je pense qu'on enseigne des choses bien plus compliquées que ça, donc il faudrait... On pourrait imaginer que ça n'est pas enseigné parce que ça ne serait pas productif pour une société telle que la nôtre que les gens soient au courant d'un certain nombre de processus. Bon, j'irai peut-être pas jusque-là, mais on peut se poser la question.
Ce ne serait pas productif, mais là, moi, je dirais, en tant que relativiste, qui décide de ce qui est productif et de ce qui l'est pas ?
Oui, tout à fait. Non, je voulais dire productif au sens de possibilité de contrôler ce que l'ensemble d'une société sait, ne sait pas, et donc les comportements qu'on va pouvoir inciter ou ne pas inciter dans
Oui, mais
dans
ça veut dire que
société.
Celui qui se pose dans cette situation-là se place de facto en dehors. Hein.
Évidemment. Voilà. Et dispose lui-même, bien entendu, des informations qu'il ne communique pas. Oui, ouais. Tout à fait. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce livre, parce que je me suis dit, bon, mais attends, il y a plein de choses que je ne sais pas, que je ne comprends pas dans l'économie, que je ne comprends pas dans la société, je ne comprends pas pourquoi il y a des supermarchés qui sont archi remplis de biens de toutes sortes, et pourquoi il y a des gens qui crèvent de faim dans la rue, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui s'enrichissent exponentiellement, en travaillant quelques heures par jour, pas plus que les autres, d'autres qui ne travaillent pas du tout et qui sont immensément riches, et dont les familles...
D'autres qui travaillent beaucoup et qui s'en sortent pas.
Et voilà, et j'allais y venir. Et d'autres, et inversement, une immense majorité de gens qui travaillent beaucoup et qui ne s'en sortent pas, qui arrivent à peine à, un, payer sa nourriture, et deux, payer son habitat. Donc voilà, toutes ces questions-là m'ont tarabusté pendant pas mal de temps, depuis toujours, ce sont des questions que je me suis posées. Et donc j'ai commencé à comprendre il y a quelques années que la monnaie, quand même, l'argent, c'était quand même un peu le nerf de la guerre, que c'était ça qui... Est-ce qu'on en a... Si on en a, on est riche, si on n'en a pas, on n'est pas riche. C'est quand même ça qui permet de vivre mieux, de vivre moins bien, de vivre très bien, de vivre mal. Donc, selon les quantités de monnaie qu'on a, tout est différent. Donc, je me suis dit, il faut que j'essaye de comprendre ça.
Oui, tu as perçu intuitivement que finalement, il y avait quelque chose à creuser dans la nature de cet instrument précis,
voilà.
Plus que les autres.
Voilà, hein. Exactement.
Alors évidemment, alors en quoi, puisque alors on va dans cette émission, on va voir un peu, on va traiter un peu les quatre chapitres de ce livre. On va les survoler, bien sûr, on pourra pas aller dans les détails. Mais alors, tu parles des bases, tu parles des, ensuite, on verra les problèmes qui se posent. Ensuite, comment la monnaie joue un rôle dans ces problèmes, déjà. Et puis ensuite, surtout la quatrième partie qui va nous intéresser en particulier, bien sûr, puisque tu vas aller jusqu'aux solutions et aller créer une ouverture, bien sûr, vers les types de solutions que l'on peut d'ores et déjà d'ailleurs mettre en œuvre pour sortir de ce problème. Alors, Justement, alors revenons aux bases, et c'était le sens de ma question que je voulais poser. Pourquoi finalement la monnaie joue ce rôle particulier finalement? Pourquoi la monnaie et pas autre chose? Par exemple, beaucoup dans les systèmes politiques, on va parler à chaque fois de ce que j'appelle moi des termes constructivistes. Alors on va parler du logement, le problème du logement, le problème de l'énergie, le problème de la précarité énergétique, le problème de la circulation, le problème de l'industrie, le problème de ceci, le problème de cela. Et jamais du problème de la monnaie. Alors pourquoi toi, à l'inverse, hein, donc, tu t'es dit, mais non, mais c'est surtout la monnaie qui pose souci.
En réalité, enfin, le fruit de mes recherches et de mes explorations m'a amené à constater qu'en réalité, c'est la monnaie qui est la construction de la monnaie et la création de la monnaie, la façon dont elle est distribuée dans la société, qui porte des conséquences sur la société. En particulier, bon, si on parle du premier chapitre, les bases, etc., on se rend compte qu'il y a des idées complètement fausses, il y a des légendes qui circulent à propos de la monnaie. En particulier, si on demande à la plupart des gens, à votre avis, pouvez-vous me dire d'où vient la monnaie ? La plupart des gens vous parlent des pièces et des billets. Bon, et disent, voilà, la monnaie, bah, c'est l'État qui crée la monnaie, forcément, la monnaie qui circule, qui d'autre pourrait créer la monnaie ? Bon. Donc ça, c'est la première fausse croyance. La deuxième fausse croyance, elle est liée à la notion du crédit. Si on demande aux gens qu'est-ce que c'est que le crédit, vraiment, la plupart des gens, et quand je fais des conférences, je commence par ces questions-là, et je constate effectivement que, malgré tout ce qu'on peut trouver sur Internet, malgré mon livre, mais bon, j'espère que ça va changer un peu, mais la plupart des gens, quand on leur dit qu'est-ce que c'est que le crédit, ils répondent, bah, c'est quand quelqu'un a besoin d'argent, et donc il va à la banque, et à la banque, il y a des gens qui ont déposé de l'argent, et la banque prête à quelqu'un de l'argent qu'elle a en dépôt. C'est-à-dire qu'il y a des épargnants qui prêtent leur argent à des emprunteurs. Mmh. Voilà.
Donc ça voudrait dire, si c'était ça, que la totalité de la monnaie en circulation ne devrait pas varier.
Exactement.
Elle devrait être stable.
Exactement, qu'elle devrait être stable. Or, ça n'est pas le cas. Et le fait qu'il y ait des crises et des booms permanents, c'est une preuve expérimentale que la monnaie n'est pas cela. Et donc voilà, donc ces deux idées fausses-là, qui sont complètement lié, parce que justement l'ambiguïté de la monnaie et de la création monétaire repose là-dessus. Ça repose justement sur l'ambiguïté entre la monnaie qui serait, entre guillemets, créée par l'État, et d'autre part le crédit qui viendrait des épargnants. Or, ces deux affirmations sont fausses. Et quand on creuse la question et qu'on commence à comprendre comment est créée la monnaie, d'où vient l'argent, à quoi servent les banques, et voilà, qu'est-ce que c'est vraiment que la monnaie, d'où elle vient, comment elle est créée, on s'aperçoit que, bon, je dévoile un peu le début du livre, mais maintenant, j'espère que petit à petit, ça va devenir...
C'est beaucoup plus détaillé.
Le domaine commun, c'est beaucoup plus détaillé, bien sûr.
Tu détailles l'inflation, comment il se détruit aussi, parce qu'il peut se détruire.
Oui, oui, bien sûr.
À qui il appartient, parce que c'est pas clair. Hein. Souvent, on croit que c'est son argent, mais c'est pas si clair que ça. Hein. Il y a des banquiers qui disent, ben non, pas tout à fait.
Oui, pas tout à fait. Tout ça reste assez ambigu. Donc c'est marrant, parce qu'on trouve toujours quelqu'un pour dire le contraire de l'autre. Bon, jusqu'à ce qu'un jour... À mon avis, ça va être dans les mois ou dans les années qui viennent.
Oui.
Tout le monde ait pris connaissance de ces informations, enfin, une grande majorité
une grande
de gens
majorité,
ait pris connaissance de ces informations, et qu'on puisse en discuter
sans
en
tabou.
Famille, chez la belle-mère, le dimanche,
voilà.
Le dimanche devant le poulet.
Ouais,
voilà. Et à partir du moment où il va y avoir un grand banquier international qui croit peut-être lui aussi encore que l'argent qu'il prête à des emprunteurs vient de l'épargne préalable, quand sa belle-mère va lui dire « Mais non, mais pas du tout, tu n'y connais rien, mon gendre. J'ai vu une vidéo sur Internet où j'ai lu un bouquin par un certain Fouché. C'est pas comme ça que ça marche. Et moi, je vais t'expliquer ce que tu fais, quel est ton vrai métier. » Ce jour-là, il va se passer quelque chose, non pas dans la société, mais dans la conscience du prédateur. Dans la conscience du banquier, dans la conscience du créateur de monnaie qui...
Il y en a qui ont des remords. Hein.
Déjà.
Il y en a qui ont des remords.
Mais bien sûr, ouais. on ne peut pas s'enrichir aux dépens de l'ensemble des gens si on s'en rend compte forcément. Aussitôt, on se dit « ça va pas ce que je fais ». À la limite, on peut dire « bon, je m'en mets plein les poches depuis 30 ans, bon, je vais garder ce que j'ai, mais je vais arrêter mon truc, quoi ». Un peu, on peut supposer qu'il y a une moralité de fin.
Non, donc, mais ça s'appelle l'aléa morale.
C'est l'aléa morale, exactement.
C'est l'aléa morale. Est-ce que vraiment, est-ce que moralement, ce qu'on fait là, c'est acceptable?
Voilà.
Par exemple, les subprimes, etc. Tout
voilà.
Ça.
Donc voilà, conclusion sur cette première partie.
Faut savoir que les subprimes, d'ailleurs, on pourra en dire deux mots, mais les subprimes, c'est de la création monétaire. C'est-à-dire que quand on va donner des crédits, ce qu'on appelle les titres hypothécaires, c'est un joli mot pour dire qu'en fait, on a quand même injecté des dollars dans la société pour que certains s'approprient des maisons, ce qui participe à la montée des prix. Si on n'a pas la possibilité de créer la monnaie, on ne peut pas faire ça. En tout cas, on ne peut pas le faire à la dimension avec laquelle ça a été fait.
Évidemment, voilà. Donc voilà, je voudrais juste pour nos auditeurs leur donner ici un des secrets les plus fondamentaux de la monnaie,
faut pas que ça sorte du net.
Voilà. Alors. Donc un des secrets de la monnaie, c'est que quand un banquier fait un prêt à quelqu'un, il crée de la monnaie. Il ne prend pas l'argent d'une grand-mère qui a économisé toute sa vie. Non. Il rajoute la quantité de monnaie qu'on lui demande par écriture du clavier.
Il écrit sur son clavier 150 000 euros et il faudra m'en rendre 200.
Voilà. Et donc le temps de travail pour créer un prêt, pour créer 10 000 euros de monnaie ou créer 1 million d'euros de monnaie, est quasiment équivalent. Pour taper 1 et 4 zéros, on met environ 3 dixièmes de seconde. Et pour taper 1 et 5 zéros, on met environ 8 dixièmes de seconde. Donc le temps de travail est à peu près le même. Et donc c'est pas l'argent de quelqu'un. L'argent est injecté de cette façon-là dans la société.
Donc par le système bancaire.
Par le système bancaire. Je dirais presque... Je suis pas du tout, mais alors pas du tout un adepte des théories des conspirations. Au contraire, je suis persuadé que le système bancaire, quel banquier à son guichet est conscient qu'il crée de la monnaie quand il fait un prêt de 100 000 euros à quelqu'un?
Alors, en général, c'est pas celui du guichet, ça se fait quand même un peu dans l'arrière-salle.
Je crois que la création monétaire en fait se fait à l'insu de la société. Telle qu'elle existe actuellement. Et donc forcément, ça a des conséquences désastreuses pour l'ensemble du monde, hein, du monde et de l'ensemble des pays,
et surtout,
des États,
ça veut dire
des
aussi
entreprises.
Il y a un contrôle de facto, de fait, inhérent à cette mécanique-là, qui est que le système bancaire a vu, finalement, sur toute opération monétaire, où qu'elle soit, il a vu, un, parce que c'est lui qui décide de qui a droit au crédit ou pas, et deux, il y a vu aussi parce qu'il voit tous les échanges. Parce que quand on parle à supervision bancaire, d'ailleurs, en ce moment, en zone euro, ça veut dire qu'il y a un super œil qui va voir tout ce qui se passe en zone euro entre toutes les banques. Ce qui, aujourd'hui, il n'y voyait pas tout, parce que les systèmes bancaires des différents pays n'étaient pas forcément interconnectés à ce niveau-là en termes de supervision. Mais ça veut dire que, donc, il y aura certains types de personnages qui vont avoir l'œil sur toutes les opérations monétaires entre elles. Alors, ça peut être positif si c'est pour éviter des dérives, mais ça peut être aussi négatif quand on veut, par exemple, s'approprier un pouvoir illégitime. C'est pratique.
C'est très pratique. C'est même indispensable.
Voilà.
Donc ça, c'est la première conséquence, tout à fait. La deuxième conséquence, c'est que c'est donc le secteur bancaire qui crée l'ensemble de la monnaie sous forme de crédit, qui va décider selon ses propres critères à qui la monnaie va aller.
Donc ça s'appelle un arbitraire.
Ça s'appelle un arbitraire, et qui va donc avoir de préférence, envie de prêter à des gens qui apportent des garanties, plutôt que de prêter à des créateurs d'entreprises qui vont acheter un stand de sandwich pour le mettre dans la rue. Et puis la troisième conséquence, qui est la plus désastreuse, c'est que, étant donné que l'ensemble de notre monnaie circulante vient d'un endettement préalable, l'ensemble de notre monnaie circulante est soumise à un intérêt permanent. Donc voilà, là on est sur le gros nœud du problème, c'est que l'ensemble de nos sociétés, que ce soit au niveau des producteurs, c'est-à-dire des entreprises, même des États, des salariés qui produisent leur travail, sont soumis au paiement d'une taxe perpétuelle, éternelle, supplémentaire, pour payer la monnaie qu'ils utilisent. Et au niveau des entreprises également, étant donné qu'elles sont obligées elles-mêmes de payer une taxe sur la monnaie qu'elles utilisent, elles sont obligées, en conséquence, d'augmenter leur prix pour ne pas faire faillite. Donc forcément, ça crée un décalage permanent entre ce que les gens gagnent et ce que les entreprises produisent, entre les prix et les salaires. Et donc, quand certains économistes nous parlent de la surproduction qui est un gros problème de l'économie, bah, si on réfléchit, pourquoi est-ce qu'il y a de la surproduction? C'est parce que les entreprises sont obligées de payer, et les salariés sont obligés de payer, donc il y a forcément toujours trop de choses en production.
Mais il n'y a pas que ça,
c'est pas assez de monnaie pour les acheter.
Le problème aussi, et ce que souligne la théorie relative à la monnaie, je vais en parler un peu, puisque tu en parles d'ailleurs dans ce livre, on y viendra à la fin, mais c'est le fait que, comme on décide que ce qui est valeur, c'est ce qui était valeur hier, cette entreprise avait de la valeur hier parce que son cours en bourse était de temps, et bien donc on va lui allouer encore plus de crédit. Ben si on lui alloue encore plus de crédit, on va produire encore plus de la même chose. C'est jusqu'au jour, évidemment, où la catastrophe arrive, parce que le marché étant saturé, où les gens changeant, parce qu'une innovation fait qu'on va changer aussi, ou parce que simplement ils ont marre du produit, eh bien ce système s'écroule, l'entreprise fait faillite. Par contre, la monnaie qui a été éjectée dans l'économie ne va pas être remboursée cette fois, puisque la faillite est actée, mais elle a été bien dépensée dans l'économie, donc elle participe de l'inflation au bénéfice de ceux qui ont reçu ce crédit, au détriment de ceux qui ne l'ont pas reçu. Évidemment, si on réfléchit à ça pour l'ensemble des entreprises qui en bénéficient, et ensuite on regarde de l'autre côté l'ensemble des entreprises qui n'en bénéficient pas, bien sûr, il y en a qui profitent de l'avoir la monnaie en premier, et donc qui font l'inflation au détriment des autres. Et sur la base de la valeur auto, je dirais auto-alimentée, auto-créée, en disant ceci est de la valeur, ceci n'en est pas, et c'est le banquier qui décide ça, évidemment, au détriment du choix d'un nouvel entrant, d'un jeune, qui va décider, par exemple, de créer l'informatique dans les années 80 ou de faire ceci, cela. Il n'y avait pas qu'un Steve Jobs, il n'y avait pas qu'un, il y en avait beaucoup plus, mais il n'y en a que deux ou trois ou quatre qui ont pu réussir parce qu'eux ont eu accès au crédit bancaire à un moment donné où ils en avaient besoin et d'autres pas. D'ailleurs, les banques peuvent aussi mettre à mort un concurrent ou un autre en décidant simplement d'arrêter le crédit et favoriser par contre leurs concurrents en leur donnant, tous les crédits possibles. C'est comme ça que les monopoles se font, comme Google, Amazon, etc. Bah, ils ont bénéficié aussi de beaucoup, beaucoup d'investissements au détriment d'acteurs concurrentiels, instituant de fait un monopole. Je pense que n'importe quel humain à peu près bien normalement construit, s'il bénéficie de 4 milliards de crédits sur 10 ans, peut arriver à des résultats comparables et sans doute meilleurs même. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire mieux. Alors, on va continuer, puisqu'on a vu un peu cette base, on a un peu avancé d'ailleurs sur les problèmes, mais on va arriver à la deuxième partie de ton livre, qui est justement les problèmes que ça cause. Alors on les a un peu ici, on les a un peu cités, mais on va aller un peu plus dans ce livre. Il y a beaucoup, tu cites beaucoup de problèmes, ici j'en vois une liste d'une bonne douzaine. Le problème, bien sûr, du déséquilibre au sein de la société, du chômage, de l'inflation, des bulles, de l'immobilier, de la dette, du pouvoir. Donc ça, c'est ta partie problème. Deuxième partie.
Les conséquences sont tellement nombreuses qu'on s'y perd. On peut pas tout citer, c'est pas possible. Il y a des conséquences au niveau personnel, il y a des conséquences au niveau social, il y a des conséquences au niveau international. Franchement, une réforme du système monétaire, c'est effectivement, comme je le dis dans le titre de ce livre, c'est vraiment un changement de monde. C'est la possibilité d'effectuer un changement de monde. Donc c'est vrai que tout ce que tu viens de dire là, ça dénonce beaucoup un grand nombre de déséquilibres à tous les niveaux. Un des sujets qui m'a le plus bouleversé quand j'ai écrit ce livre, c'est au niveau international. Parce que ce qui se produit au niveau local, au niveau personnel, c'est-à-dire que une banque crée de la monnaie pour prêter 100 000 euros à quelqu'un qui veut s'acheter un studio. Du coup, cette personne est endettée pour 20 ans et doit se battre pendant 20 ans pour trouver non pas les 100 000 euros qu'on lui a créés, mais en plus 100 000 euros d'intérêt pour rémunérer la banque, qui a travaillé quelques secondes et qui, évidemment, comptablement, on va me dire « Ah oui, mais il faut que la banque protège son bilan parce que la monnaie, elle l'a bien injectée. » Et donc, on est d'accord, ça c'est pour le principal. Mais bon, les intérêts, c'est quand même une belle rémunération. Il y a une espèce d'enchaînement au sens de mettre des chaînes à... Il y a une espèce d'enchaînement de l'individu qui s'est endetté pour avoir de la monnaie qu'il ne peut pas avoir d'une autre manière. Ce processus-là est absolument identique au niveau international. Et donc là, ça a des conséquences tout à fait désastreuses et tout à fait très difficiles à mesurer. Parce que le système d'endettement des pays eux-mêmes est exactement identique. Par exemple, quand un pays riche ou quand un conglomérat bancaire ou financier puissant a besoin d'exploiter les ressources d'un certain pays pauvre, les infrastructures nécessaires pour cette exploitation-là ne sont pas présentes dans le pays pauvre. Donc ce pays pauvre a besoin d'argent pour installer ses infrastructures.
Mais il n'a pas son propre système de monnaie ?
Il a son propre système de monnaie, seulement le problème c'est qu'il n'a pas les infrastructures industrielles pour construire il n'a pas les entreprises industrielles nécessaires pour construire ses propres infrastructures. Or, les entreprises industrielles pour construire les infrastructures pour exploiter ses propres ressources, le pays pauvre, il est obligé de confier ce travail-là à des entreprises internationales, à des grosses entreprises internationales qui résident dans les pays riches, qui sont contrôlées par les conglomérats financiers internationaux. Alors voilà comment ça se passe. Il y a donc des conglomérats financiers internationaux, comme le Fonds monétaire international, comme la Banque mondiale. Ça fonctionne très bien. Ce sont des gros organismes qui sont dominés par les pays riches, c'est-à-dire l'Occident, pour faire simple. Et donc les banquiers de ces pays-là vont voir les dirigeants des pays pauvres et font exactement la même démarche qu'un banquier qui va voir un pauvre pour lui vendre une maison. Vous savez que vous pourriez vous acheter. C'est les subprimes, c'est exactement pareil.
Je connais des bailleurs internationaux qui peuvent vous trouver du financement.
Exactement.
Et en fait, ça sera du crédit.
Voilà. Et vous allez.
Il n'y a pas de bailleur.
Voilà. Et vous allez pouvoir vous construire des autoroutes, des usines, des ports. Ça va être merveilleux. Vous allez avoir un pays fantastique.
Bon. C'est l'hameçon.
C'est l'hameçon.
Et après, on fait.
Les dirigeants qui sont en général des chefs de village améliorés, qui ont tout le pouvoir sur leur propre pays, se frottent les mains et acceptent d'endetter leur propre pays. Et alors l'endettement, il est fait de la même manière qu'un prêt, il est fait par une écriture comptable, il n'y a pas d'épargnant préalable qui prête de l'argent, non, pas du tout. Les banques internationales créent de la monnaie, des dollars en général, pour les prêter aux pays pauvres. Mais alors il y a un truc là qui m'a profondément bouleversé quand j'ai découvert ça, c'est que ces crédits-là qui sont accordés, entre guillemets, aux pays pauvres, accordés, il faudrait dire, cette monnaie qui est créée pour les pays pauvres, elle doit revenir dans les pays riches.
Bien sûr, puisqu'il faut la rembourser.
Un, il faut la rembourser, mais deuxièmement, il faut faire construire.
C'est pas du tout un don.
C'est clair.
Le prêt, finalement, n'est pas une aide.
Non, c'est une chaîne.
Mais le problème est là, c'est qu'il y a un glissement sémantique dans le fait toujours que l'on dit on va vous aider. Et c'est pas une aide de faire un prêt. Quand on fait un prêt, on ne donne rien, puisqu'on demande de rembourser non seulement le prêt, mais plus, avec les intérêts.
Bien sûr.
De toute façon, c'est même pas. Même quand on fait un prêt, c'est une aide momentanée, je dirais. Et c'est même pas une aide, je dirais, à la limite, c'est un petit service, tout petit. On ne peut pas appeler ça une aide.
C'est vrai, mais si c'est un vrai prêt qui mobilise des richesses que nous avons eu du mal à accumuler et dont on se sépare pour les donner à quelqu'un, bon, à la limite, ça peut se comprendre. Ça se comprend, évidemment. Et c'est ça qui, dans l'inconscient collectif, fait qu'on se dit, mais attends, c'est normal que les banquiers soient rémunérés, puisqu'ils prêtent de l'argent, ils risquent de le perdre. Or ce n'est pas le cas. C'est de la création à partir de rien. Le terme, c'est ex nihilo.
Mais Gérard, le fait de prêter quelque chose et de demander plus en retour n'est pas légitime. Ça ne l'a jamais été. Je veux dire, faut pas non plus. Même à la racine, ça l'est pas. Non seulement, bien sûr, tu viens de dire, en plus, c'est même pas quelque chose qu'on a et qu'on prête, mais même demander qu'on nous rende plus se questionne. Ça n'est pas, dans ce cas-là, on ne peut pas l'appeler une aide.
Tout à fait.
À la limite, si on demande de rendre l'objet qu'on a prêté, on peut dire, bon, je te le prête un peu, mais parce qu'en général, on ne s'en sert pas. On accepte, on fait un peu confiance et tout. Bon, mais est-ce que c'est vraiment une aide? C'est presque du civisme de base.
Ça se discute.
Le fait d'appeler aide quelque chose qui est de l'ordre du prêt, c'est-à-dire de rendre, si je te donne quelque chose, je t'aide. Si je te donne du temps, si je te donne un objet, si je te donne une formation, n'importe quoi, si je te le donne, là je t'aide. Mais je t'aide pas si je te prête. C'est pas à proprement parler une aide.
Bien sûr. D'autant plus pas une aide. C'est juste pour terminer sur le point des aides ou des prêts internationaux. C'est d'autant moins une aide que le pays pauvre, par exemple, est obligé de redépenser son propre prêt pour financer des entreprises qui viennent de l'Occident, pour aller lui construire les moyens que l'Occident va se donner pour piller ses propres, pour piller les ressources du pays pauvre.
Alors là, c'est là que...
Donc, vraiment, c'est...
Mais surtout, c'est... Alors surtout, je pense qu'il faut comprendre, et tu viens de très bien expliquer, mais je voudrais être plus précis. Évidemment, on endette, enfin le pays, disons, s'endette et dépense dans une monnaie qui n'est pas la sienne.
Ah oui, bien sûr.
Or, si vraiment le pays voulait se développer, pourquoi il ne s'endette pas dans sa propre monnaie? Évidemment, parce que celui qui vient de rendre un service, pourquoi il n'accepte pas d'être payé dans la monnaie du pays qui accueille? Alors évidemment, s'il l'acceptait, bien sûr, le pays qui accueille pourrait créer un peu plus de monnaie, voire beaucoup plus, et puis noyer en quelque sorte sa dette dans une inflation. Si on crée beaucoup, beaucoup plus de monnaie que ce qu'on a accepté de payer préalablement, finalement, la monnaie qu'on avait donnée se trouve perdre sa valeur. Sauf que la monnaie sert à faire des échanges. Pas être stocké. Donc si le pays dépensait cette monnaie pour faire un développement d'infrastructures, des hôpitaux, n'importe quoi, des routes, bon, très bien, ben celui qui a reçu cet argent doit acheter quelque chose en échange. Et si possible dans ce pays, puisque la monnaie vient de ce pays, donc de la production de ce pays. Alors ça peut être une part de la production qui a été construite, par exemple, pourquoi pas, mais ça peut être aussi de la production du pays, quel qu'il soit. Alors je sais pas, en Argentine, du bétail, ils en ont beaucoup. Ou je ne sais quoi, tu vois ce que je veux dire? Parce que la monnaie sert d'échange. Il y a aussi l'argument fallacieux qui est de dire, comme on l'a fait en Europe pendant longtemps, sous prétexte que l'Allemagne a vendu, et quasiment rien acheté, qui était en excédent commercial, après elle se donne le droit, en quelque sorte, de dicter ses volontés aux autres. Mais la monnaie sert à l'échange, pas à imposer sa volonté quand on a vendu en premier. c'est là qu'il y a un biais aussi sémantique. Hein. Donc toujours pareil, l'aide et le pouvoir. Hein. Soi-disant c'est une aide, et puis alors si j'ai d'un, après j'ai le pouvoir de décider. Mais non. Hein, parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est toujours dans un jeu où le premier qui prête, en quelque sorte, ou le premier qui vend, donc il se retrouve avec le surplus de monnaie, hein, se retrouve en droit de décider de la vie d'autrui. Mais ce n'est pas le but de la monnaie. La monnaie, c'est bien pour faire des échanges, on est d'accord.
Ouais,
non, mais c'est là que le glissement sémantique est permanent.
Ah, mais oui.
Parce qu'on glisse toujours.
Permanent et indispensable pour couvrir la réalité.
C'est là
qui est que ce genre d'opération, ce n'est pas du tout un échange. C'est un pillage.
C'est un pillage.
Donc, donc forcément, ça ne pourrait pas marcher si l'autre a le même pouvoir ou a une égalité, évidemment. Alors, donc le glissement sémantique, il est absolument indispensable.
Il est indispensable, oui, parce qu'on vend toujours avec le sourire, et puis.
Et puis après, bien sûr,
on demande des comptes.
Alors, pour continuer sur les problèmes, il y a un gros problème aussi, justement, qui est créé en partie, et en grande partie, par le principe de création monétaire dont nous avons hérité. Qui s'applique à la planète, qui s'applique à l'écologie. Voilà. Donc, à partir du moment où on a un système monétaire qui oblige les entreprises à augmenter leurs prix parce qu'elles doivent payer un intérêt sur leur masse monétaire, et d'autre part qui oblige les particuliers à diminuer leur salaire parce qu'ils doivent en prendre une partie pour payer les intérêts communs. On a donc un
par l'impôt, bien sûr.
Tout le monde paye les impôts et les impôts payent la dette.
Il faut savoir aujourd'hui
les intérêts de la dette.
En 2012, je crois que la totalité des impôts sur le revenu sert à payer les intérêts de la dette uniquement.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on dit la dette, on dit la monnaie. Quand on dit la masse monétaire, on dit la dette.
Oui.
C'est la même chose.
Oui,
c'est la même chose. C'est pour ça que tout le monde est endetté. C'est pour ça que la fameuse phrase de Woody Allen, mais si tous les pays sont endettés, alors où est passé l'argent? Forcément que tous les pays sont endettés, puisque tous les pays ont de la monnaie, donc tous les pays ont de la dette.
Oui, bon. C'est-à-dire, d'ailleurs, si on fait le ratio simplement, si on regarde la totalité, la masse monétaire en Europe, qu'on le compare avec ce qu'on appelle la dette des États, ça fait le même chiffre, c'est-à-dire que la totalité de la monnaie qui circule, c'est essentiellement la dette d'État, et une partie en dette privée, bien sûr, mais la dette privée, elle se compense, parce que ce qui est dette d'un côté et pas dette et crédit de l'autre, donc quand on fait la somme, ça se compense. C'est la dette de l'État qui ne baisse jamais. Pourquoi? Parce que c'est la monnaie qu'on infuse dans l'économie.
Qu'on est obligé d'infuser. Et donc, pour dire on va tenter de réduire la dette,
c'est un
non-sens. Ça voudrait dire on va tenter d'avoir moins de monnaie.
comme si on en avait assez.
Justement, il n'y en a pas assez. Bon. Et donc, alors pour revenir sur l'écologie, donc le décalage permanent entre les entreprises qui sont obligées d'augmenter les prix et les particuliers qui ne peuvent pas consacrer tout leur salaire à acheter la production, ça a une conséquence terrible. C'est que qu'est-ce qui va être favorisé au niveau de la production? Qu'est-ce que les entreprises vont avoir tendance à fabriquer pour satisfaire une demande qui n'est jamais suffisante pour acheter la totalité de la production? eh bien, les entreprises vont avoir tendance à fabriquer des biens, des objets, au prix le moins cher possible. Le seul vrai critère de succès dans une économie, c'est le rapport qualité-prix. C'est d'avoir quelque chose qui soit le moins cher possible, parce que les consommateurs en face, ils n'ont jamais assez de monnaie pour acheter ce que les entreprises produisent. Donc là, on est dans un cercle vicieux permanent.
Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que l'argent qu'on les consomme, ce qu'on appelle les consommateurs, bon, pour moi, il n'y a pas de consommateur. Tout le monde est producteur.
Tout le monde est producteur, évidemment.
Mais l'argent que soi-disant le consommateur, c'est celui qui l'a gagné en travaillant pour l'entreprise, pour fournir les biens. Il faut que l'entreprise arrive à récupérer cet argent, en fait, en quelque sorte. Et le salarié, finalement, doit, acheter ce qu'il produit.
Oui.
Et en plus, il faut que l'entreprise fasse un bénéfice.
Oui.
Qui sert, enfin, ou une marge dont il y a un intérêt pour la banque et un bénéfice pour l'entreprise.
Et il faut que le salarié paye ses intérêts sous la forme des impôts. Voilà, donc il n'y a jamais assez d'argent.
Il n'y a jamais assez d'argent.
Il y a toujours une rareté entretenue d'argent. Donc le problème, c'est que les entreprises qui sont favorisées là-dessus, c'est pas les petites boîtes qui font de la bonne qualité et qui sont obligées de vendre plus cher. Eux, ils crèvent instantanément. Ils ne peuvent pas tenir, puisqu'il n'y a personne pour leur acheter leurs beaux trucs qui sont chers.
Ouais.
Donc, où va le succès ? Le succès va aux entreprises qui sont capables de grossir, de faire des économies d'échelle monstrueuses, de construire des usines pour fabriquer des chaussures en Chine parce que là-bas, on peut encore exploiter les gens.
Ouais.
Et donc le fait que notre masse monétaire soit soumise en permanence à cet intérêt-là, et donc crée un décalage permanent entre le côté consommateur de chacun et le côté producteur de chacun, ça fait qu'on est obligé d'avoir une société qui est prédatrice des ressources de la planète. Et donc là, on comprend pourquoi il y a trop de transport, pourquoi il y a de la pollution, pourquoi on est obligé de se battre les uns contre les autres, pourquoi il y a seulement les grosses entreprises qui tiennent le coup. Il y a la structure, le gène principal de la société crée cela.
Crée cela, oui, exactement. C'est le code de la monnaie qui est la racine de ça, comme tu disais, la cause.
On va
voir plus de détails dans la deuxième partie de l'émission, puisqu'on va voir comment la monnaie modèle le monde. On va étendre
on
ce
est,
principe-là.
Là, on y est.
Et puis après, on conclura les alternatives. Alors, je voudrais juste faire deux petites remarques. Pour aller un peu plus là où tu disais, que par rapport à l'endettement des pays, etc., il y a un vieil adage qui dit... Il y a deux façons de conquérir un pays, hein, c'est soit par les armes, hein, par la guerre, soit par la dette. Hein. Mmh. Donc ça c'est un premier, il faut le savoir, hein, ça existe, hein, c'est assez précis. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc la dette est vraiment une arme de guerre. Et alors deuxième chose sur ce que tu viens de dire, par le fait que l'entreprise est obligée, etc., par la rareté, etc. On peut imaginer qu'en fait le rêve humain qui serait que toute la production de ses besoins fondamentaux soit robotisée n'est en fait pas possible dans ce système monétaire là, parce qu'on ne paierait pas les robots, bien sûr, on produirait des biens, mais il n'y aurait personne en face pour les acheter, puisque aujourd'hui on ne peut gagner de la monnaie de façon légitime pour ceux qui n'en créent pas, parce que ceux qui en créent, il n'y a pas de problème pour eux, hein, ça va, ils peuvent s'en prendre, d'ailleurs ils se payent des bonus au passage, hein, quand bien même ils ont fait faillite, hein. Mais le salarié, enfin les autres hommes, ils ont en quelque sorte privé de propriété sur leur terre de naissance, parce que c'est un peu ça qui se passe aussi. Ben, se retrouve dans l'obligation de devoir travailler pour quelqu'un qui, lui, a droit à la monnaie en premier, pour en avoir. Donc évidemment, si tout est robotisé, c'est pas possible. Donc en fait, on peut même pas aller vers, finalement, ce qui pourrait être un idéal, c'est d'avoir au moins l'essentiel des besoins vitaux qui soient produits de façon totalement automatisée, puisque simplement, si ça n'est pas possible, les gens n'auraient pas de quoi les acheter.
Oui.
C'est-à-dire, ils ne travailleraient pas. C'est le paradoxe absolu.
Ouais.
Bien sûr, alors bon, il faudrait voir après, peut-être que chacun pourra arriver à se robotiser lui-même. On va peut-être arriver à ça. Alors, on va passer après la deuxième partie, mais avant, on va faire une pause musicale dans cette émission, parce qu'elle va être un peu longue. Donc, je vous laisse avec cette musique, forcément libre, bien sûr, sur... Monnaie libre, et puis je vous retrouve après cette on se retrouve après cette petite pause. Et voilà, nous voici de retour dans Monnaie Libre pour la deuxième partie de cette émission avec donc Gérard Fouché, les secrets de la monnaie. Alors dans la première partie, on a rappelé les bases, le rôle fondamental de la monnaie dans l'économie, puis on a aussi abordé tous les problèmes qui sont subséquents, qui dépendent finalement de cette monnaie, de la façon dont elle se crée aujourd'hui dans un système de monnaie dette. On en a beaucoup parlé, que ce soit au niveau des États, au niveau aussi international, on a parlé des pays pauvres. Tu parles dans ton livre à la fin de cette deuxième partie qu'on a abordée tout à l'heure, dans les problèmes de la globalisation, les ramifications internationales, comment donc finalement la dette est une façon aussi pour des pays de se faire la guerre économique, et de finalement de prendre possession des ressources d'un pays. Tu parles de démocratie, etc. Alors, on aborde maintenant, avant la dernière partie, qui sera peut-être celle qui nous intéresse le plus sur Monnaie Libre, parce que tu vas parler des alternatives. Alors, dire qu'il y a des alternatives, c'est-à-dire qu'il y a quand même la possibilité d'être libre, de changer, de faire autre chose. Donc, c'est ça qui va nous intéresser. Mais avant, on va parler de comment la monnaie actuelle, en tout cas, comment cette monnaie modèle le monde. Alors, voilà ta troisième partie. Grand décalage, monnaie folle, société folle, des cycles, des prix. La terre internationale, alors.
On a parlé tout à l'heure de la dette, de l'endettement international, justement, qui permettait à l'Occident d'exploiter les pays pauvres. Bon, ça, c'est quelque chose d'important. On pourrait parler aussi des problèmes que crée le besoin et la rareté permanente de monnaie dans chaque pays, qui le pousse, justement, étant donné que sa propre population n'arrive pas à acquérir, à consommer sa propre production. Étant donné que donc le consommateur est sans arrêt impuissant par rapport à la totalité de la production, la plupart des entreprises sont condamnées finalement à exporter leur surplus de production. Or, comme tous les pays sont dans la même situation, parce que dans la plupart des pays du monde, la monnaie est fabriquée de la même façon.
Donc c'est un code unique.
C'est un code quasiment unique, oui, oui. Même en Chine, où la banque centrale conserve une grosse fonction de création monétaire, c'est le système bancaire aussi qui diffuse la monnaie dans la société.
La banque centrale est une banque aussi.
La banque centrale est une banque aussi, voilà, qui accorde des crédits à qui elle veut et qui prélève un intérêt aussi sur l'ensemble de la population. Donc, étant donné que la population n'est jamais en mesure localement d'acquérir l'ensemble de la production, les entreprises, pour ne pas faire faillite, sont contraintes, condamnées à exporter en permanence. Or, comme cela se produit dans tous les pays simultanément, tous les pays sont condamnés à exporter.
Donc ça marche plus, à un
moment donné. C'est pas possible.
À un moment donné, ça crée une crise.
C'est forcément, puisque bon, le principe des échanges internationaux, a priori, c'est une somme nulle. Bon, si je t'achète, tu me revends. Si tu me revends, je t'achète, etc. Et puis bon, sur un an, 10 ans, 100 ans...
Mais avec une monnaie qui manque...
On est à zéro, à peu près, quoi, en moyenne, voilà. Mais comme personne n'a assez de monnaie, et que donc localement, on ne peut pas s'en sortir, tout le monde veut exporter. Donc, il y a un combat permanent qui peut aller jusqu'à des contrôles militaires. Oui. C'est peut-être ce qu'on constate maintenant, dans certaines parties du monde. Voilà, le système monétaire que nous avons condamne à un export obligatoire, et donc condamne à une lutte internationale permanente.
Donc en fait, on pourrait dire, et peut-être c'est ça peut-être qui nous fait comprendre toute cette mécanique aujourd'hui, c'est que finalement, par la globalisation, et comme la Terre est ronde, elle n'est pas infinie, plate et infinie, parce que si elle était plate et infinie, on pourrait faire la cavalerie jusqu'à l'infini.
Oui, bon...
Mais l'infini n'existe jamais, d'ailleurs en science on le dit souvent. En physique, il n'y a pas d'infini, il y a toujours une limite... disons, indépassable, mais il n'y a pas d'infini en tant que tel. Et la Terre, c'est pareil. Donc, si on globalise, évidemment, cette mécanique d'exportation, finalement, en quelque sorte, l'Empire a toujours une limite. C'est-à-dire qu'il va faire le tour de lui-même, il va se retrouver au point de départ, et c'est là qu'il ne peut plus conquérir autre chose si ce n'est lui-même.
Voilà, oui, exactement. donc voilà, c'est un des moyens qui permettent de dénoncer l'absurdité totale du système. Voilà, tout le monde veut exporter, donc comment on fait maintenant ?
D'accord. Donc c'est cette course à l'intérêt manquant aussi, hein, donc cette histoire-là.
Ah, alors l'intérêt manquant, alors, bon, il y a tout un chapitre là-dessus, un peu, là, on va en parler, oui, bien sûr. Bah, bon, ça part du principe que, bon, voilà, puisque la monnaie n'est créée que par de la dette, que par des emprunts, quelqu'un emprunte et donc doit payer de la dette, il faut bien qu'à un moment donné, il rembourse le principal. Donc on peut dire que le principal, il l'a eu, il l'a dépensé, donc en travaillant, il va le regagner. Il va le rendre, point 1, mais point 2, ça continue après. Une fois qu'il a remboursé le principal, il faut aussi qu'il trouve les intérêts. Or, un prêt immobilier sur 20 ans de 100 000 euros, ça condamne l'emprunteur à rembourser 100 000 euros de plus. Donc ces 100 000 euros-là, où va-t-il bien pouvoir les trouver ?
Alors on peut dire qu'il peut les trouver par cycle, parce qu'on peut dire que le banquier réinjecte l'intérêt qu'il a gagné dans l'économie, c'est-à-dire que effectivement la monnaie arrive dans l'économie et donc permet à celui qui la reçoit de payer son intérêt, puis après son principal par cycle, comme ça par mécanique. Il le gagne, il le réinjecte. Mais le problème de ça, c'est que ça suppose que le banquier le fait. Or la réalité, c'est qu'il ne le fait pas. C'est-à-dire que cet argent, il le stocke ou il l'exporte à l'étranger, par exemple. Évidemment, alors, donc il n'est pas dans l'économie. Donc en fait, cette mécanique, il suppose une possibilité. Mais en fait, qu'une possibilité, ce n'est pas une contrainte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte pour le banquier de dépenser cet intérêt. Donc si le banquier garde une partie importante de cet intérêt en réserve, en épargne, mécaniquement, la dette est infinie. On ne peut pas rembourser.
Voilà. Et quand bien même le secteur bancaire redépenserait cet argent, il le redépenserait où il veut, à son profit. Ce qui n'est pas fondamentalement équitable. Oui. Bon, donc voilà. Donc on se trouve face à un déficit permanent de monnaie pour payer les intérêts. Donc où allons-nous, en tant que communauté, en tant que collectivité, trouver les intérêts pour payer notre dette ? Eh bien, on ne les trouve pas. Parce qu'on ne les trouve pas. Alors, c'est là où on arrive à un point clé vraiment fondamental, à un des systèmes prédateurs les plus incroyables de la création monétaire actuelle. C'est que pour trouver les fameux intérêts qui n'existent pas au préalable dans la masse monétaire, comment on va faire ? D'où ils vont venir ces intérêts ?
Il faut inciter le banquier à les dépenser, mais il ne le fait pas.
Voilà. Alors, comment on va faire ? On peut inciter d'autres gens à les dépenser.
Oui.
Bon. Ou à les créer. Comment faire ? Eh bien, il suffit que quelqu'un ait envie d'acheter un appartement et qu'il aille les emprunter à la banque et qu'il les dépense. Et là, aussitôt, évidemment, l'argent nouveau vient d'arriver et il est possible à ce moment-là que quelqu'un d'autre le prenne et le rende au banquier pour payer ses intérêts. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait en permanence des nouveaux emprunteurs.
Oui.
C'est ça. C'est ça qui est affreux. Et c'est ça qui fait que nous sommes face à un système financier, économique et politique qui ne peut pas avoir d'autre discours que la croissance. Parce que pour continuer à ce que les intérêts soient possibles, pour que les intérêts soient possibles d'être payés, il faut en permanence que des nouveaux emprunteurs arrivent. Donc il faut en permanence que l'économie grossisse.
Oui, mais oui.
Alors donc on est foutu. Les écologistes, moi je vous le dis, on est foutu parce que forcément, si on a de la croissance obligatoire, forcément on bouffe tout.
Il peut y avoir de la croissance immatérielle.
Je sais, j'en parle dans mon livre, bien sûr. Oui, la croissance immatérielle.
Parce qu'on parle de la croissance économique. Or, quand un médecin soigne quelqu'un et que ce quelqu'un donne un cours de maths au médecin, on n'a dépensé aucune matière, aucune énergie. Je dirais
un petit peu, mais
non, mais que celle humaine, en fait, je veux dire, c'est pas voilà. On peut augmenter la qualité de la médecine, on peut augmenter les qualités de l'enseignement,
heureusement,
sans forcément dépenser plus d'énergie. Donc c'est là, il y a un biais quand même dans ce raisonnement de finitude qui ne tient pas en compte surtout c'est extrêmement étonnant parce que depuis 15-20 ans, et puis moi je peux en parler parce que j'ai fait tout mon développement d'enseignement de professionnels aussi très proche de l'informatique, quand c'est pas en plein dedans. Enfin, j'ai fait beaucoup d'ingénierie dans l'informatique. Bon, mais l'informatique, par essence, c'est essentiellement non matériel. On me dira, ça dépense de l'énergie. Oui, mais beaucoup moins en fait qu'une voiture ou autre chose. D'ailleurs, par l'informatique, on a besoin de moins se déplacer, hein, parce qu'on a beaucoup plus d'échanges, etc. Donc, on a d'informations, alors qu'avant, il fallait se déplacer pour avoir l'information. Donc là, au contraire, on déplace l'information et non pas la matière. Donc ça dépense moins d'énergie, voire quasiment pas, voire c'est quasi nul, hein, c'est très très peu par rapport à ce qu'on avait avant pour la même chose. Oui. Donc c'est là qu'il y a un biais, c'est-à-dire que la croissance immatérielle n'est pas prise en compte, elle existe, elle est réelle. Je veux dire, le fait d'augmenter la qualité
dans le système d'exploitation informatique comme GNU Linux ne dépense pas plus d'énergie. C'est des ingénieurs qui sont mieux formés et qui ajoutent des lignes de code ou qui en suppriment, mais en tout cas, ça ne dépense pas plus d'une année sur l'autre. Donc il y a un biais à ce niveau-là. Alors tu parles aussi du coup de filet. C'est quoi ça, le coup de filet? Technique du coup de filet.
C'est l'exploitation du cycle économique complètement artificiel qui est créé par le principe de la création monétaire par un certain nombre d'individus qui sont au courant du cycle monétaire et qui même sont à sa racine.
Ouais. Ils sont au courant d'ailleurs parce qu'ils sont à la racine. C'est eux qui décident des périodes où on va injecter plus de monnaie, du début de ces périodes-là, et des périodes où on va décider de dire stop, on arrête. Par exemple, on peut dire qu'en 2008, ça a été la décision par Goldman Sachs, en particulier, de dire stop, on arrête, les subprimes notamment. Hein. Voilà. Et ça a entraîné l'arrêt de tous les autres crédits petit à petit. D'ailleurs, c'est ça qui s'est passé. On est dans l'effondrement, la finale, parce qu'ils veulent être remboursés de quelque chose qui n'existe pas.
Voilà. Donc c'est un peu le principe de la manipulation des cours boursiers, c'est le principe de la manipulation des prix, de toute chose en général. C'est quand on a le pouvoir d'investir soit parce qu'on dispose de montants de monnaie infinis, soit parce qu'on dispose du privilège de la création monétaire, quand on a ce pouvoir-là d'investir dans quelque domaine que ce soit dans les tableaux, dans l'art, dans les meubles,
dans quelque chose d'inconnu, moi j'y tiens beaucoup.
Ou dans quelque chose d'inconnu, bien sûr.
J'y tiens beaucoup parce que le problème, c'est
au niveau de la création.
Dans les discours économiques, on parle toujours de favoriser tel ou tel secteur et on oublie toujours qu'il y a des jeunes qui arrivent chaque année. Chaque année, il y a des jeunes de 20 ans qui ne sont pas les jeunes de 20 ans de l'an dernier, c'est ceux qui avaient 19 ans qui passent à 20 ans. Ils sont toujours nouveaux et eux, ils ont des choses à dire totalement nouvelles et dont on ne prend jamais compte, bien sûr, parce que par définition, la nouveauté, on ne peut pas la définir.
Bien sûr, bien sûr. Donc à partir du moment où un centre arbitraire, ou je dirais un petit sommet de pyramide, dispose soit de moyens bien supérieurs au reste de la population, soit du privilège de la création monétaire, c'est ce centre-là, c'est ce sommet de la pyramide-là qui décide où injecter l'argent, où investir, et qui donc, de ce fait augmenter les prix dans ce secteur-là. Donc, en achetant, ou en créant, ou en faisant créer, ou en investissant dans tel ou tel domaine, avant tout le monde, puisqu'on dispose de la richesse infinie, ça permet d'acquérir les biens au prix le plus bas, puisque personne n'est encore au courant.
Oui.
Ensuite, d'investir et de laisser monter les prix, jusqu'à ce que la bulle explose et que les prix retombent. Et à ce moment-là, on peut revendre au plus haut, racheter au plus bas, revendre au plus haut, racheter au plus bas. C'est le coup de filet permanent.
C'est le coup de filet permanent.
Voilà. Ouais. C'est du, je dirais, ça peut être un peu assimilé à du délit d'initié permanent.
C'est de la cavalerie permanente. Hein.
C'est de la cavalerie. oui, voilà, oui. Bon, ça se fait beaucoup sur les marchés boursiers. Hein, quand on a sur les marchés de futur, les marchés à terme, même les marchés d'actions. Quand on a des capitaux immenses, on peut très bien investir énormément sur une action, par exemple, ce qui fait monter le prix de l'action. Et puis après, on regarde le prix monter tout seul.
Ouais.
À partir du moment où le prix a commencé à monter, le reste des initiés achètent en se disant « Tiens, ça monte, j'achète, ça va monter, je revendrai. » Après, les gogos achètent. Après, le grand public achète. Et puis, celui qui a acheté au début, il suffit qu'il revende en haut de la bulle et il fait fortune.
Alors si en plus on possède quelques médias monopolistiques pour dire cette valeur elle monte, donc on peut y aller, il y a un potentiel de hausse, etc.
C'est merveilleux. Alors moi je voudrais parler un petit peu du côté moral, du côté éthique de tout ça, parce que je suis pas persuadé que les gens qui profitent de ces systèmes-là soient plus mauvais que les autres. Pas forcément. Il n'y a pas d'individu qui soit bon, d'individu qui soit mauvais. Moi, je ne pense pas. Je pense que n'importe qui, confronté aux mêmes circonstances, voilà, vous vous promenez dans la rue, vous trouvez un ticket de loto gagnant, je pense qu'il y a très peu de gens qui vont aller le rapporter, à l'organisme du loto ou au commissariat de police. Je pense qu'on va le garder. Donc, face aux circonstances, l'occasion fait le larron. Et donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, c'est un petit peu en dehors de mon bouquin, mais je pense que c'est les règles du jeu, c'est le système lui-même qui doit être réformé. C'est pas du tout les mentalités des gens. C'est pas du tout empêcher les gens de faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est pas du tout combattre une soi-disant conspiration. C'est pas du tout réglementer la politique ou l'économie. Non, ça c'est beaucoup plus simple de changer la petite règle qui fait que certains vont en profiter et d'autres pas.
Voilà, quand tu parles de règles,
c'est mon analyse.
On pourrait faire le fameux parallèle du Monopoly. Le Monopoly a des règles particulières qui font que par construction, ça conduit au fait qu'il y aura un gagnant et trois perdants.
Voilà.
Même si on joue à quatre, on peut jouer à plus. Mais Hein, donc c'est mécanique, parce que les règles sont construites pour que le jeu se finisse comme ça. Mmh. Donc à partir de là, on ne peut pas déplorer le fait que la partie de Monopoly finisse toujours par un gagnant. Donc c'est un peu la même idée. Mmh. C'est-à-dire, le système monétaire est construit de telle façon que de toute façon, au bout d'un certain temps, alors ça peut être 20 ans, 30 ans, 40 ans, ben, on se retrouve dans une situation régulièrement où 1% possède 95% ou 99%, et puis 99% possède 1%.
Voilà.
Donc c'est mécanique, c'est une partie de Monopoly, en fait, censée se renouveler. Pourquoi ? Parce qu'on a choisi ou parce qu'on n'a pas pris conscience que ces règles impliquent ce type de solution, ce type de résultat. Alors en mathématiques, on dit que, enfin en général, quand on a une certaine équation, des certaines contraintes qui sont liées à des données, ou en physique aussi, quand on met un système sur certaines contraintes, le résultat, il peut être différent, mais il appartient à une certaine classe de solutions et pas d'autres.
Voilà.
Il y a ces solutions-là, il n'y en a pas d'autres. Et là, au Monopoly, c'est un seul gagnant et tant de perdants. Dans la réalité d'un système monétaire tel qu'il existe et tel que tu le décris dans Les Secrets de la Monnaie, donc ton nouveau livre, eh bien, on est dans cette même situation mécaniquement, parce que le code est construit comme ça, il ne peut y avoir à terme que 1% qui possède 99%. Donc c'est pas leur faute. Bon, quelque part, peut-être que certains en ont pris conscience et qu'ils font rien pour en changer la nature. Mais c'est en tout cas lié au code, et en tout cas, c'est pas une volonté de forcément qui est due à autre chose.
Je crois que c'est important de dire ça, parce que d'une part ça peut permettre à ceux qui en profitent justement de ne pas avoir de scrupules à dénoncer eux-mêmes le système dont ils profitent, et ça peut aussi permettre à ceux qui n'en profitent pas ou qui en sont victimes de ne pas culpabiliser et de dire voilà, c'est pas parce que nous sommes inférieurs, c'est pas parce que nous sommes stupides que nous sommes pauvres ou que nous n'avons pas de monnaie, c'est parce que voilà, quand on a joué au Monopoly et qu'on a perdu, des fois c'est vrai qu'on se bagarre un petit peu à la fin d'une partie de Monopoly, mais on n'est pas en colère après le gagnant parce qu'il a gagné une partie, on sait très bien que les règles veulent cela et pas autre chose, donc voilà, je crois que c'est important de préciser tout ça.
D'accord. Alors, à noter que dans ce livre, alors, il est construit de telle façon qu'il y a souvent des encadrés qui résument et qui synthétisent un peu cette idée. Alors, tu en parleras peut-être un peu. Je vais en citer un, là, que je suis tombé dessus, là, page 258. C'est dans quel chapitre ? C'est dans « Comment faire pour améliorer les choses ». Alors, un petit encadré qui résume un peu l'idée. « Amusant. Deux arguments reviennent souvent pour défendre le système existant, parfois dans la bouche des mêmes personnes. » Un premier argument, donc. Le crédit est une bonne chose, la monnaie d'être ne s'est pas créée toute seule, elle est là pour satisfaire la nature humaine qui exige toujours plus, qui est toujours plus créative, qui a besoin sans cesse de nouveautés, de prospérité. C'est la nature humaine de vouloir se développer. Et deuxième argument, la monnaie doit avoir un prix. Distribuer de la monnaie gratuite serait une hérésie car la nature humaine est paresseuse. Et si on donne de l'argent sans rien faire, personne ne voudra plus travailler, la société va végéter. Et tu conclus par « il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour s'apercevoir que ces deux arguments sont contradictoires et s'annulent l'un l'autre, effectivement. Hein, puisque si l'être humain est dynamique, pourquoi vaudrait-il stagner? Et si l'être humain ne rêve que de l'oisiveté, pourquoi vaudrait-il créer ?» Bien sûr, les deux arguments s'opposent. Et bien sûr, alors ça, c'est ce qu'on fait toujours pour justifier l'injustifiable. Hein, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose, on donne des arguments contradictoires. D'ailleurs, on voit bien, c'est exactement le sujet de la politique qui est souvent de donner des arguments contradictoires au moment où on veut justifier le côté face, puis le moment où on veut justifier le côté pile, afin de jouer la tranche en quelque sorte. On le voit récemment d'ailleurs avec l'histoire de l'impôt des 75%, puisque cette histoire de foyer fiscal soi-disant qui est sur l'impôt du revenu, l'impôt sur le revenu c'est le foyer fiscal, et le Conseil constitutionnel a retoqué la taxe des 75% sous prétexte que lui était basé sur le citoyen. Alors qu'en fait, si on regarde le fondement logique de la République, les droits de l'homme, c'est le citoyen. Et c'est certainement pas le foyer. On peut résumer ça par travail, famille, patrie, n'est pas du tout la devise de la République, c'est la devise de Pétain, de l'occupant. Et c'est pas du tout la devise liberté, égalité, fraternité. Il peut y avoir qu'égalité entre hommes et femmes, entre citoyens, et pas le foyer ne peut pas être une base, d'ailleurs n'est pas la base des droits de l'homme et donc de la Constitution. Bon, alors évidemment, mais par contre, si on est contradictoire, on peut démontrer tout et son contraire, bien sûr. Donc c'est encadré, il y en a beaucoup dans le livre.
Oui, parce que c'est quand même j'ai beaucoup simplifié, tout est très très compréhensible. Enfin, c'est ce que les premiers lecteurs nous disent. Et donc j'ai utilisé ces petits encadrés, pour revenir quelquefois au milieu ou aux deux tiers du livre sur des notions qui ont été abordées au début. mais qui peuvent avoir... bon, c'est des choses aussi qui sont tellement... Quand on s'est jamais intéressé à tout ça, quand on n'a jamais essayé de percevoir un peu les conséquences du système monétaire et à quel point c'est important pour nous, il y a des choses qui sont difficiles à croire. Il y a des choses qui sont très bouleversantes, qui remettent en question des tas de choses. Donc, le livre est un petit peu construit comme une méthode à 6000, si tu veux, tu vois. C'est-à-dire que il y a des expressions qui sont utilisées une première fois au début, puis qui reviennent à un tiers, puis qui reviennent au milieu, et puis qui reviennent à la fin. Et avec la répétition, on finit par comprendre et assimiler vraiment la notion économique qui a pu sembler incroyable ou complexe au début. Donc c'est un peu un travail aussi de, je dirais, d'enseignement, quoi, de communication en tout cas.
Alors je vais relire un autre, alors une partie d'un autre, un encadré encore qui résume un chapitre, il est pas mal. On en a parlé un peu tout à l'heure, la technique du coup de filet.
Ah oui, alors, oui.
Tu reprends les termes, en fait tu montres ça sous forme d'un algorithme. Hein. Mmh. Augmenter l'afflux de crédit pour causer une euphorie. Mmh. 2, l'euphorie entraîne plus d'endettement. 3, l'excès d'endettement augmente les prix. 4, la bulle explose. 5, les défauts s'accumulent. 6, le bilan des banques s'assombrit. 7, les crédits se réduisent. 8, la récession s'installe. 9, retour à 1. Ouais, mais oui. C'est exactement ce qu'on va vivre. Hein. C'est-à-dire qu'actuellement, on est en période de récession. Alors, on n'a pas encore vécu tout à fait ça en France. On commence à le vivre en 2012, 2013, début 2013. Évidemment, la phase suivante, ça sera l'augmenter l'afflux de crédit par des justifications, des réindustrialisations ou quoi que ce soit. On va de nouveau réinjecter de la monnaie dans l'économie, en disant aux gens de faire ceci ou de faire cela. Le problème est sûr qu'ils ont aujourd'hui, et ça va être beaucoup plus dur de continuer cette arnaque, puisque avec Internet, les gens sont équipés, et ils pourront difficilement savoir ce que les gens veulent, ce qui est plus facile quand les gens ne sont pas connectés entre eux, bien sûr.
Je vais juste revenir sur un petit truc. Tu parlais tout à l'heure de... nous parlions tout à l'heure de l'importance du crédit pour les créateurs. Il faut injecter forcément. À propos de l'incohérence des deux arguments contradictoires tout à l'heure, on disait le crédit est important. Enfin, un des deux arguments disait le crédit est important parce que quand on est créateur et qu'on a envie de progresser, on a besoin de monnaie, on a besoin de crédit, etc. Donc, c'est une des objections principales que j'entends parfois dans la bouche des économistes officiels qui me disent alors tu veux supprimer le crédit, c'est ça, et ils me disent mais le crédit est indispensable pour la société, pour la création des entreprises et tout, comment ils vont faire? Et oui, mais qu'est-ce qu'on répond à ça? Et bien on répond oui, il faut supprimer le crédit fait par les banques. Il faut que les banques arrêtent d'injecter du crédit là où elles sont
les hommes.
Alors qu'est-ce qu'on fait à la place?
Alors oui.
Qu'est-ce qu'on fait à la place?
Voilà, c'est ça.
Alors ce qui est passionnant à observer,
oui.
Et là on peut peut-être aborder doucement la dernière partie, les alternatives. Ce qui est très passionnant à observer, c'est que toutes les alternatives, finalement, elles se mettent en place. Elles sont en train d'émerger, de se mettre en place toutes seules.
Ouais,
il y a des tas de gens partout.
Pas toutes seules, ça demande beaucoup d'efforts.
Oui, il y a beaucoup d'efforts, mais j'allais dire, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent et qui créent les alternatives qui vont nous permettre, tout ça est simultané, de sortir finalement de ce système déséquilibré, prédateur, et qui fonctionne au profit de certains et pas des autres, et en tout cas de certains et au détriment de la majorité. Et donc les alternatives, elles sont en train d'être étudiées, de se mettre en place. Il y a plein de laboratoires partout, dans le monde entier, il y a des monnaies alternatives.
Alors,
dans le monde entier, il y a des services d'échange d'holco.
On va préciser ça.
Non, voilà.
On arrive à la dernière partie. Donc,
effectivement,
les alternatives. Alors, que signifie, en fait, vis-à-vis de tout ce qu'on a expliqué, de la monnaie, on a parlé de la monnaie. Hein. Mm-hmm. Que signifie, finalement, une alternative et quelque chose qui est unique? Parce que quelle est la signification de alternative? Parce que les gens ont du mal à comprendre ça.
Alors, la question, quand tu as dit tout à l'heure, ça m'a beaucoup frappé. Il y a deux façons de conquérir un pays, soit par la guerre, le fusil, soit par la dette. Bon. L'analyse que je fais, et je termine un petit peu là-dessus dans mon livre, parce que ça va être le sujet de mon prochain livre cette année, en 2013, c'est la relation entre le pouvoir, la violence et la monnaie. J'ai constaté en faisant des recherches que la monnaie est un outil indispensable pour la domination et pour la conquête. On l'a vu tout à l'heure, hein, avec la domination des pays pauvres par l'endettement. Et donc, la violence physique, c'est-à-dire l'agression physique, la conquête et la domination d'un pays, à la façon américaine, la libération d'un pays par l'occupation militaire, ne peut se faire que si on contrôle au préalable la création monétaire. Et donc là, on se trouve face à la notion de monopole. Qui détient le monopole? Où réside le monopole? Il semble que, historiquement, la création d'une monnaie, la création d'un monopole monétaire et la diffusion d'une monnaie dure, d'une monnaie physique, soient liées aux conquêtes des grands empires, l'Empire romain en particulier, qui a utilisé la monnaie physique pour rémunérer les soldats qui occupaient les pays dans lesquels l'Empire romain s'étendait. Donc il semblerait que historiquement, la monnaie et donc la diffusion de la monnaie dans les pays soit intrinsèquement liée à la conquête par l'occupation militaire. Donc ça voudrait dire qu'une partie de notre libération de ce genre de système passe par la création de monnaies alternatives. Parce que si on refuse de se soumettre, ou si on comprend que se soumettre à un monopole monétaire, c'est se soumettre de fait à une, entre guillemets, occupation.
Ou c'est encourager la violence, finalement.
Oui, et encourager la violence. Si ce n'est se soumettre non pas à une occupation ou à une violence, ou à une imposition violente, en tout cas, pour se libérer de ce monopole-là, il suffirait, semble-t-il, de créer une monnaie alternative et d'utiliser cette monnaie au niveau local, entre nous.
Il ne suffit pas de créer une monnaie alternative, parce que si elle a le même code, elle va produire les mêmes effets.
Ah bien sûr, oui, non. Bah, évidemment, il faut identifier ce qui cloche dans la monnaie monopolistique et ne pas le reproduire dans une monnaie alternative. Oui, bien sûr. Donc c'est là où les recherches actuelles sur Bitcoin, sur OpenUDC, sur la théorie relative de la monnaie que tu as écrite sont très importantes et fondamentales, parce que ce sont des moyens d'analyser qu'est-ce qui ne va pas dans le code monétaire que nous avons et comment faire pour éviter de reproduire les mêmes erreurs, ou en tout cas les mêmes causes qui reproduiraient les mêmes effets à long terme.
Trouver d'autres solutions,
Codes monétaires, et des codes monétaires qui, si possible, soient moins prédateurs, plus équitables, plus viables à long terme et ne déclenchent pas des révolutions, des guerres à répétition. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que, curieusement, alors que les économistes nous disent « mais on ne peut pas changer le système de création monétaire parce que ça voudrait dire qu'il faut changer le système de crédit, on ne peut toucher à rien parce que les entreprises n'auraient plus de crédit », cet argument-là est faux, est complètement fallacieux, parce que justement, en changeant le système de création monétaire, simultanément, nous sommes obligés de trouver des alternatives au crédit. Des alternatives aux gens qui veulent emprunter de l'argent et qui veulent avoir de l'argent avant de l'avoir gagné, voilà, pour créer en général. Donc là, et c'est curieux de constater que, parallèlement à l'émergence des monnaies alternatives, des systèmes d'échange locaux, etc., on voit parallèlement l'émergence du crowdfunding, c'est-à-dire de sites web où on peut dire « voilà, moi j'ai des économies, je voudrais bien la prêter à des gens, mais je voudrais savoir à qui ça va, choisir pour quel projet, dans quel domaine, etc. » Non, mais ça permet d'avoir une alternative au fait que, évidemment, la monnaie sera créée différemment par rapport au crédit bancaire. Donc
non,
forcément,
non,
il faudra
parce
bien
que
quelqu'un...
C'est la même monnaie. Dans le crowdfunding, on crowdfund en dollars ou en euros. Donc oui, ça, si c'est au sein d'un système qui s'effondre, ça ne pourra que s'effondrer. C'est-à-dire que c'est un pis-aller qui ne fonctionne que le temps où les gens croient encore que la monnaie, en quelque sorte, est stable et circule normalement, alors que ce n'est pas le cas.
Tout à fait, mais il faut voir ça au sens d'un laboratoire.
Oui.
C'est quelque chose qui nous permet une monnaie complémentaire, c'est pareil. Elle va forcément s'effondrer au bout d'un moment. Moi, j'aime pas le dire, parce que bon, il y a des gens qui croient beaucoup aux monnaies complémentaires. Mais à partir du moment, tant qu'on considère que le monopole de la monnaie officielle et de l'État doit être être subie sans rien dire. Forcément qu'il y a un moment où une monnaie complémentaire, si elle a du succès, si elle s'étend et qu'elle est génératrice de travail non taxé, de travail non imposé, forcément qu'elle va être interdite. Donc elle est vouée à disparition aussi. Mais c'est pas grave, c'est un laboratoire. C'est quelque chose qui permet à la population, aux gens qui n'avaient aucune notion des conséquences incommensurables de la création monétaire sur leur propre vie, ça permet à tous ces gens-là de dire « D'accord, j'ai compris, la monnaie, c'est juste, j'écris des numéros sur un petit carnet, et la personne à qui je vends écrit des numéros sur son petit carnet. Non, la monnaie, c'est juste ça. »
C'est un accord entre
nous. Voilà, c'est un accord entre nous. Ouais. Voilà. Donc, c'est un laboratoire qui permet d'éveiller
c'est
les
consciences.
C'est comme
on se met d'accord pour jouer au Monopoly. C'est-à-dire qu'on accepte les règles,
voilà.
On se met d'accord pour jouer aux échecs, aux dames ou à ce qu'on veut.
Voilà.
Bon, mais là, on se met d'accord pour utiliser une monnaie dont on a étudié le fonctionnement et se dit « Ok, on est d'accord d'utiliser ça. »
Exactement.
Ce qui n'est pas le cas avec la monnaie que, donc, qu'on connaît depuis notre naissance, en quelque sorte.
Mais non, puisqu'on n'en connaît pas le code.
Et voilà,
c'est caché. Ouais. Donc voilà. Donc je pense qu'au niveau des alternatives... Bon, il y a certaines... Les alternatives, c'est un milieu ambiant où... où les meilleures solutions vont se dégager parce que les gens vont se dire « Ah bah ouais, ça marche bien, voilà, ça marche depuis 5 ans, 10 ans, on va essayer de faire pareil. » Tout ça, c'est un laboratoire, c'est en ébullition. Et donc, plus le système financier et économique actuel se délite et s'écroule ou dévoile ses monstrueux défauts, plus les solutions alternatives sont explorées, plus elles sont en laboratoire et plus ça devient intéressant, ne serait-ce que pour le plaisir d'apprendre de les utiliser.
Bien sûr. Alors on va étudier un peu cette partie-là quand même un peu plus en détail. Ce qui nous intéresse, bien sûr, sur monnaie libre, au-delà du fait qu'il y ait d'autres monnaies possibles et qu'on peut créer d'autres monnaies, bien sûr, ce sont leurs codes. Hein,
oui.
Puisque pour nous, bien sûr, ici, on va analyser surtout le code des monnaies. C'est le code qui va nous faire dire cette monnaie est libre ou pas. Parce que évidemment, si je recrée une monnaie alternative qui est basée sur la dette, de la même façon, eh bien, mécaniquement, j'utilise le même code que la monnaie qui crée des problèmes. Donc, je créerai toujours des problèmes et je ne peux pas espérer résoudre les problèmes premiers liés à la monnaie initiale. Donc, ici, tu cites plusieurs modèles de monnaie différents. Monnaie basée sur le temps, extrêmement délicat, on pourra en parler un peu. Celle, le système d'échange locaux, alors qui en général sont basés sur quoi? Un crédit mutuel, hein, on est d'accord. Hein.
Oui, c'est une comptabilité mutuelle où chacun sait à peu près. Enfin, c'est même
chacun
exactement.
Arrive dans le système à, par exemple, 100 unités. Hein, voilà, ou à droit.
Ça dépend, il y a tout, mais oui, il peut y avoir cette possibilité-là, oui, et puis voilà, on a 100 quand on arrive dans le système, d'accord, et puis voilà, si je vends quelque chose, j'ai 110, et celui
sûr.
À qui j'ai vendu, il a 90.
Alors le problème de ça, bien sûr, c'est que c'est limité là aussi, hein, donc là, alors il n'y a pas d'intérêt par contre, mais c'est limité, ce qui fait que si la monnaie est stockée quelque part, le reste de la communauté subit une déflation.
Ça c'est
mécanique et il peut y avoir raréfaction de la monnaie aussi.
Oui.
Donc ça c'est un système qui n'intègre pas l'expansion du nombre. Alors l'expansion du nombre monétaire d'ailleurs n'est pas du tout liée à une expansion des flux. Hein. Il peut y avoir une expansion du nombre avec un flux qui est le même. Simplement les prix montent un peu et alors ça change rien en termes d'échange.
Oui.
Hein. C'est-à-dire confondre le nombre avec les échanges, c'est une grossière erreur que les gens font trop souvent. Où les analyses trop courtes font, mais le nombre peut monter, les prix montent, bon, et alors c'est stable. Hein. Par contre, le fait que les prix montent, que l'augmentation du nombre se fait, du nombre d'unités monétaires se fait, permet à tout nouveau membre qui arrive, il ne faut pas oublier le fait que les hommes meurent et d'autres naissent, permet à tout le monde d'avoir sa part de monnaie. C'est-à-dire que, donc, évite toute déflation locale, tout assèchement local, le fait qu'on aurait, en quelque sorte, la pluie évite qu'il y ait des endroits où il n'y ait finalement pas d'eau. C'est-à-dire que comme il pleut tôt ou tard ici ou là, alors évidemment sauf dans les déserts, ce qui est particulier, mais d'ailleurs, quand on veut que ça marche dans les déserts, on irrigue, hein. C'est-à-dire on s'arrange pour qu'il y ait de l'eau qui vienne.
Oui, et puis ça évite aussi, moi je crois que c'est aussi très important, que quiconque se sente lésé ou frustré.
Bien sûr.
C'est ça, parce que bon, le problème de nos sociétés, c'est que la monnaie n'étant pas distribuée de manière équitable, bah, forcément il y en a qui en ont moins que les autres, et puis il y en a qui en auront toujours moins que les autres. Donc forcément, il y a un moment de leur vie où ils se disent « c'est dégueulasse, je prends un fusil et je vais faire la révolution dans la rue ». Donc je pense que si on veut une société plus, je dirais pas pacifique, mais plus paisible, si on veut une société où il y ait moins de concurrence, où il y ait plus de solidarité, plus de complémentarité, plus de créativité des individus, on doit vraiment profondément réfléchir à... au code, à la façon dont notre monnaie est distribuée et utilisée. Et c'est un élément fondamental pour la paix, pour l'équilibre en général des individus et des groupes.
Alors tu parles aussi des monnaies cryptées décentralisées, donc ça, alors il peut y avoir plusieurs modèles, mais c'est le cas du Bitcoin.
Oui, je parle alors, un petit peu de Bitcoin. Bon, en même temps, je ne suis pas un spécialiste du tout des monnaies alternatives. Ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'expériences, il y a beaucoup de gens qui se regroupent pour dire « allez hop, on crée une monnaie ». Il y a des spécialistes de ça qui ont étudié les différents codes monétaires. Il y a plusieurs monnaies alternatives qui sont en création. Mais ce qu'il faut souligner quand même à chaque fois, c'est que inévitablement, tant qu'on n'a pas réfléchi également au problème du monopole d'une monnaie étatique, qui de fait, légalement, par la loi, interdit le grossissement des monnaies alternatives, si on n'a pas en même temps traité ce problème-là ou réfléchi à cette question-là, on se heurtera tout le temps à la possibilité que toute monnaie alternative soit interdite
par le monopole. Si la majorité une très grande majorité des citoyens...
Mais le problème, c'est que c'est pas possible. Parce que la loi dit très clairement, le code monétaire dit très clairement...
Ah non, mais c'est les citoyens alternatives... qui font la loi.
Oui, non, mais... Non.
Non, mais si tous les citoyens... Mais... Non, mais quand les citoyens d'une zone considérée d'un pays se mettent d'accord pour faire la loi, ils font la loi. Je veux dire, ça, historiquement, ça s'est toujours passé comme ça.
Ça voudrait dire faire sécession. Faire sécession.
Pas besoin de faire sécession, il suffit que les citoyens se mettent tous d'accord pour changer la loi, c'est tout.
Oui,
c'est la base,
bon.
Ça. Je veux dire,
en l'état actuel des choses...
Ça passe donc par l'apprentissage et la compréhension.
Voilà, c'est tout. En l'état actuel des choses, la conscience individuelle de l'importance de la monnaie fait que, à partir du moment où une monnaie commence à fonctionner et qu'elle regroupe un certain nombre de villages ou de communes, etc., on le constate dans l'histoire. Il y a en particulier Philippe de Ruder qui a écrit un livre très intéressant là-dessus sur les monnaies complémentaires. On constate que... toutes, sans exception, toutes les monnaies complémentaires qui ont connu un certain succès, c'est-à-dire qui commençaient à s'étendre et à réunir un certain nombre un consensus important de population, ont été interdites.
Non, c'est pas vrai. Le VIR n'a pas été interdit. Et le Kim Goer en Allemagne non plus. Bon, ils ont un vrai succès.
D'accord. Disons qu'il y en a deux.
Mais non, mais il n'y a pas que cela. Ça fait deux contre-exemples.
Le fait que le VIR, que le siège de l'association qui gère le VIR soit à Bâle, à mon avis, il n'est pas indifférent au fait qu'elle
soit... Là où il y a les règles de Bâle du système monétaire en vigueur.
Là où il y a surtout la Banque des règlements internationaux, qui est la banque centrale des banques centrales et qui est le sommet du sommet de la pyramide monétaire mondiale. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas suffisamment spécialiste pour ça. Il faudrait demander à Alex Jones, qui doit sûrement être au courant de tout ça. Mais enfin bref, je crois que parallèlement... à la recherche et à la connaissance de la monnaie, nous devons, comme beaucoup de philosophes et de chercheurs le font, nous devons également faire une recherche et une analyse de l'existence du monopole étatique monétaire.
D'accord. Donc tu finis donc par évidemment ce qui nous intéresse le plus ici, par les monnaies à dividendes universelles.
Oui.
Hein, où tu le décris. Alors là aussi, tu as mis des petits encarts récapitulatifs. Et tu finis par expliquer et convaincre, hein, la possibilité aussi de faire des conférences. Hein.
Ah oui, oui, parce que bon, moi ça m'intéresse beaucoup de diffuser ce genre d'informations. Il y a vraiment un travail énorme de vulgarisation, de compréhension commune à faire. Moi, j'adore, je suis passionné de communication, de public, un de mes métiers précédents, c'est la mise en scène et le jeu de l'acteur. Donc je suis très à l'aise avec quand il y a du monde et qu'il y a des questions qui fusent et qu'il y a des échanges. C'est comme ça qu'on apprend les uns des autres, avec les objections, avec les réponses, avec les questions. Et donc c'est vrai que quand je fais une conférence, c'est merveilleux parce que je ne quitte jamais une conférence sans avoir appris des tas de choses. Et donc en particulier sur le... Si tu veux, pour terminer sur les monnaies à dividendes universelles. Bon, c'est vrai que j'ai suivi un espèce d'entonnoir dans ma recherche.
Je vais lire le petit encart et puis tu concluras là-dessus. Tu fais un petit encart. Alors je lis. Le calcul d'un dividende universel monétaire qui respecte les libertés économiques se fait en fonction de deux éléments. la masse monétaire existante et l'espérance de vie moyenne des habitants de la zone économique concernée. Il est attribué sans condition, identique pour tous et garanti à vie. L'objectif est l'égalité des individus présents et à venir. Donc on pense à la mort prochaine de ceux qui existent et puis à la naissance de ceux qui viennent, en fait, c'est ça l'idée. Autant au niveau de l'accès à la monnaie que de la quantité reçue. Ou de la quantité émise, plutôt, moi je dirais. Parce qu'en fait, c'est l'homme qui émet, finalement. Il ne reçoit pas, il n'y a pas quelqu'un qui donne la monnaie. C'est-à-dire que c'est les hommes même qui émettent une part, mais semblable, parce qu'ils ne veulent pas prendre avantage sur les autres. Ils respectent les droits de l'homme, en fait. Donc la quantité émise. Mais dans la mesure où on ne part pas de zéro, mais d'une masse monétaire existante, il convient de prendre celle-ci pour base. Donc on calcule, c'est une masse relative, en fait. Le dividende monétaire est ensuite distribué d'un bout à l'autre de la vie. Ça, c'est important, tout le temps. Donc il n'y a pas de moment privilégié pour recevoir sa part. C'est pas quand on rentre dans le système qu'on reçoit une quantité, non. C'est tout le long de sa présence dans le système monétaire qu'on reçoit une part régulière de monnaie et relative à la masse monétaire, donc égale de génération en génération. Et le calcul intègre donc la moyenne dynamique de l'espérance de vie des membres de la communauté, afin que tout citoyen à la naissance ait le même potentiel monétaire que les autres. Voilà, et donc tu cites la théorie relative de la monnaie sur ce passage-là.
Bah oui, c'est quand même, à l'instant T où nous sommes aujourd'hui, en 2013, c'est une analyse très pertinente d'une forme de distribution et de création monétaire équitable, à la fois pour chaque individu, pour chaque citoyen, et quel que soit son âge, sa position dans l'échelle du temps. Et donc voilà, si on commence à s'intéresser un petit peu à la monnaie, qui est donc, c'est ma conclusion dans ce livre, un crédit mutuel, finalement, une comptabilité mutuelle qu'on s'accorde les uns envers les autres. Il n'y a aucune raison que cet outil d'échange soit créé ou distribué par une personne plutôt qu'une autre, par un centre plutôt qu'un autre, par un sommet de pyramide plutôt qu'un autre. Non, pas du tout.
Et non plus donc, un temps donné de l'histoire.
Alors voilà, donc ça voudrait dire que le mieux, le plus éthique serait que la monnaie soit distribuée à chacun d'une manière identique tout au long du temps, voilà, en permanence. Et donc voilà, c'est l'aboutissement, c'est un petit peu ce que je dis quand je parle d'un entonnoir. J'ai étudié un peu toutes les formes de création monétaire, toutes les alternatives possibles, et voilà, si on étudie tout ça, on peut arriver à la conclusion que ce serait bien, ce serait équitable, ce serait générateur de paix et d'entente mutuelle que chacun reçoive une part de monnaie identique tout au long de sa vie. Donc ça semblerait arguer pour des monnaies à dividendes universelles. Ce qui n'empêche pas ce qui ne veut pas dire imposer une monnaie à dividendes universelles à tout un pays, pas du tout. Ce serait encore aussi ridicule qu'un monopole d'État avec une monnaie dette. Hein. Ça veut dire au contraire que nous devons, si on a fait cette démarche et cet aboutissement, nous rapprocher des systèmes émergents qui proposent ce genre de monnaie.
Voilà, si on veut respecter la liberté,
y intéresser sans forcer qui que ce soit à l'adopter, mais au moins, si on trouve que c'est bien, l'adopter nous-mêmes et voir si ça marche. Voilà, on est en labo là en ce moment, on est en expérience, on est en laboratoire, on est dans une période, on est dans une totale période de transition.
Il ne faut pas attendre que ça vienne, il ne faut pas attendre que ça se passe. Voilà. Nous sommes acteurs. Voilà. C'est-à-dire que si nous ne faisons pas nous-mêmes l'effort, nous-mêmes, de participer à ces émergences, à ces travaux, ton livre, Les secrets de la monnaie, participe à ça, puisque tu as fait l'effort de produire un livre qui fait le tour, et qui incite le lecteur à aller plus loin pour, après, une fois qu'il a compris tout ça, aller vers les systèmes de monnaie alternative et se poser des bonnes questions, et du coup être finalement outillé intellectuellement pour voir ce qui, dans une monnaie, finalement, est pertinent ou ne l'est pas, en fonction des critères qu'il s'est donné lui-même, des critères sans aléa moral, sans aléa, parce que on l'a bien vu, cette histoire d'aléa moral qui pourrit un peu le système monétaire actuel. Voilà, donc si on ressent ce problème économique, si on ressent ce problème monétaire, il faut lire Les secrets de la monnaie, changer la monnaie pour changer le monde. Alors, de Gérard Fouché, donc. Alors, c'est Liberty Books. Alors, il y a un site internet, libertybooks.eu. Et on peut trouver, bien sûr, ce magnifique livre. Il est beau, il est assez joli. Donc, 300 pages, ça se lit assez vite et facilement, avec tous ces encarts qui, à chaque fois, ponctuent les chapitres et les résument Presque on pourrait lire que les encarts et avoir un bon résumé du livre. Hein.
Déjà, oui.
Voilà, ça pourrait être pas mal. Voilà. Et donc, une fois que vous avez lu ça, ben, rejoignez un système de monnaie alternative et testez-le et posez-vous des questions et participez à son développement parce que si vous n'êtes pas acteur de système, on ne voit pas trop comment il se créera tout seul. Comment il... C'est pas possible.
Bien
ça.
Sûr.
Si, c'est possible. Les choses peuvent se créer toutes seules.
Non.
Donc, ça n'empêche pas l'effort. Hein.
Au contraire, ça incite à l'effort. Je pense que le fait d'être conscient de quelque chose incite à résoudre le problème. Si on
puis finalement, participer à un système de monétaire, c'est participer à la création d'un nouveau genre de valeur.
Bien sûr,
c'est une valeur, bien sûr.
Moi, c'était mon but en écrivant ce bouquin, c'était de montrer qu'il y a quelque chose de malade dans notre société et donc de donner envie aux gens de se soigner.
Et si on veut que tu viennes faire une conférence pour présenter les secrets de la monnaie, tu te déplaces, hein, je crois,
et tu demandes
juste que les frais de déplacement, c'est ça ?
Oui, voilà. Hein, oui,
donc on peut te joindre par internet, sur Facebook, sur
pas
Liberty Books,
on
peut avoir tes coordonnées, Gérard Fouché, vous tapez ça dans votre moteur de recherche favori. Alors je ne cite plus le site américain, maintenant je cite Six, qui est un moteur de recherche libre et qui est magnifique, que j'utilise maintenant, Six. Il y a six.fr, S-E-E-K-S, hein, donc il est libre, open source, il marche bien. Il y en a un autre qui s'appelle Yassi, mais qui est difficile à utiliser, il faut l'installer, c'est compliqué. Mais Six marche très bien, il est open source aussi. Alors il se sert peut-être un peu des moteurs existants pour l'instant, mais n'empêche qu'il permet de s'en passer. C'est-à-dire qu'il l'utilise de façon transparente pour l'utilisateur, on ne donne pas ses données, c'est le moteur Six qui les donne, donc... Du coup, les moteurs qui sont utilisés par lui ne savent pas ce qui se passe derrière. Voilà, donc c'est quand même mieux pour être un peu plus respectueux des libertés individuelles. Voilà, donc merci Gérard de nous avoir accompagnés.
Merci Stéphane.
Dans cette émission qui dure un certain temps. On a fait une belle émission, là, presque 1h30, je pense. Je ne sais pas exactement la durée, mais on doit pas être loin.
Super.
Voilà, donc cette émission Monnaie Libre spéciale Les secrets de la monnaie avec Gérard Fouché. On a encore une fois fait le tour de la monnaie, mais avec l'œil de Gérard Fouché, donc il faut regarder aussi le mini-show, hein, le mini-show de Gérard Fouché. Non, mais... D'ailleurs, ça fait longtemps que tu n'en as pas fait. Je crois que tu baisses un peu en production.
Hein. Ouais, bah oui, bah on peut pas tout faire. Hein.
Voilà, parce que tu es aussi homme de théâtre, bien sûr. Hein.
Oui, mais bon, là, je vais m'y remettre. Là, 2013, ça va être chaud, ça va bouger.
Mini-show.
Voilà.
Donc, merci de nous avoir suivis dans cette émission Monnaie Libre de ce début 2013, Les secrets de la monnaie par Gérard Fouché. Et puis moi, je vous laisse avec notre générique fétiche, bien sûr, No More Dreams de Nighter. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Au revoir.